C'est ça. Écoute, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Jean. On a lu ce matin dans le chapitre 1 quelques versets, puis on va effectivement lire dans Jean chapitre 1. J'aimerais lire les 18 premiers versets, mais ce matin, je vais me concentrer sur les 5 premiers. Mais les 18 premiers versets de l'Évangile de Jean forment un tout. C'est Jean qui introduit son évangile, ce qu'on appelle un prologue, le prologue de l'Évangile de Jean. Donc, j'aimerais quand même qu'on lise pour qu'on ait une bonne idée de ce prologue-là dans son ensemble, puis regarder ce matin les 5 premiers versets. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Maintenant, j'espère que la dernière fois que j'étais ici parmi vous, avec le survol que j'ai fait de l'Évangile de Jean, qu'on a compris le but que Jean avait lorsqu'il a écrit son évangile. Jean écrit dans un but clair en disant ceci, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. » Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, pour Jean, la personne la plus importante que la terre a accueillie, c'est le Seigneur Jésus. Et ce qui est le plus important pour chaque être humain, c'est qu'est-ce qu'on croit à son sujet. Puisqu'on doit croire en son nom, si on veut avoir la vie éternelle. La véritable vie ici-bas, mais aussi la vie éternelle avec lui. Donc, Jean n'a qu'un but, faire connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Puis, au tout début de son évangile, il veut qu'on comprenne qui est Jésus-Christ. Qu'on comprenne qu'il est Dieu, qu'il est de toute éternité, puis qu'il est Dieu venu en chair. Jean, il sait que c'est impossible d'être un véritable croyant si on ne connaît pas véritablement qui est Jésus-Christ. Et vous savez que même à l'époque où Jean vivait encore, il y avait des hérésies qui se disaient à propos du Seigneur Jésus. Il y avait des choses fausses qui se disaient à propos du Seigneur Jésus. Et puis, dans son épître, il va combattre ça. Dans la première épître de Jean, on lit au verset 22 du chapitre 2, « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, qui nie que Jésus est le Messie? C'est là, celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Puis, dans son évangile, Jean met beaucoup d'emphase sur la relation du Père aussi avec le Fils. Au chapitre 4 de sa première évangile, il va dire « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui déclare publiquement ou qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Christ, pour Jésus, n'est pas de Dieu c'est celui de l'Antéchrist. Dans sa deuxième épître aussi, il va dire ceci au verset 7. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » Et encore au verset 9 de la même épître, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Donc, Jean, c'est important pour lui qu'on demeure dans la doctrine, dans ce qui concerne Jésus-Christ, qu'on le connaisse, qu'on sait qui il est réellement. Et puis, dans son prologue, il va établir des choses importantes en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ qui vont être un tremplin sur tout ce qu'il va enseigner par la suite. Maintenant, je ne veux pas faire peur à personne, mais Jean, il écrit comme un théologien. La théologie, c'est l'étude de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est de vouloir connaître Dieu. Puis Jean écrit comme un théologien, mais pourtant, Jean n'utilise pas des grands mots. Le langage de Jean, il est simple, mais ce qu'il dit et ce qu'il écrit est profond. Souvent, on va inviter les gens à lire l'Évangile de Jean parce que c'est un évangile qui est simple à lire. Mais quand on se met à l'étudier et à le regarder, c'est oui, un évangile simple, mais un évangile profond. Donc, c'est important pour Jean d'introduire son évangile avec une saine doctrine concernant la personne du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Puis c'est ce qu'il fait, comme je le mentionne dans son prologue, dans son introduction. Et puis, son introduction, je l'ai lu au complet parce que je veux qu'on voit qu'il y a quatre chose importante qu'il affirme concernant le Seigneur Jésus dans ces 18 premiers versets-là. Dans les versets 1 à 5, il va parler de la préincarnation du Seigneur Jésus, hein, qui il était avant de venir sur la terre, avant qu'il s'incarne sur la terre. Dans les versets 6 à 9, il va parler de Jean-Baptiste qui proclame la parole, hein, qui va l'annoncer pour qu'on croie en lui et qu'on ait la vie. Dans les versets 10 à 13, il va nous montrer comment la parole a été reçue, hein, la réception de la parole. Malheureusement aussi, comment elle n'a pas été reçue. Et finalement, dans les versets 14 à 18, il va nous parler de son incarnation, de l'incarnation de la parole. Hein, que cette parole-là qui nous présente jusqu'à présent est venue sur terre en chair. Donc, c'est ce que Jean fait dans son prologue, dans les 18 premiers versets. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, je vais me concentrer sur les 5 premiers versets. Et puis, Dieu voulant, peut-être, un certain moment donné, on aura passé à travers ces 4 thèmes-là, mais ce matin, concentrons-nous sur les 5 premiers versets. Donc, Jean, comme théologien, a beaucoup à dire au sujet de la parole préincarnée dans les 5 premiers versets. Puis, ces versets-là renferment de grandes vérités. Les versets 1 à 3, ils renferment de grandes vérités au sujet de l'existence de la parole, son existence éternelle. Puis dans les versets 4 à 5, Jean nous entretient sur l'expression de la parole, autrement dit, comment la parole, elle s'est manifestée parmi nous. Donc, son existence, les versets 1 à 3. En ce qui concerne l'existence de la parole, Jean, il fait 3 affirmations au sujet de la parole. Il affirme la préexistence de la parole, c'est-à-dire que la parole existe de toute éternité. Ensuite, il affirme la coexistence de la parole, c'est-à-dire que la parole, elle est Dieu, oui, mais Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Elle est une des personnes de la Trinité. Bon, maintenant, on en parlera un petit peu plus, mais même si le mot Trinité n'est pas dans la Bible, le concept, l'enseignement, il est là. Et finalement, il affirme l'auto-existence de la parole, autrement dit que cette parole-là, elle existe en dehors de sa création. Donc, j'ai mis la table. J'espère que je ne perds personne. Je veux être simple dans ce que je dis comme Jean. Mais on a des grandes vérités là qui sont importantes pour nous puis que je voudrais regarder avec vous. Donc, Jean commence son évangile par les mots « au commencement ». Et puis tout de suite là, quand on entend ces mots-là, au commencement, on pense à Genèse 1. Donc Jean, il fait une analogie avec la création. Puis c'est intéressant parce qu'on va voir que cette analogie-là que Jean fait avec la création ne se limite pas à ces deux mots-là. Mais tout de suite, il nous montre qu'il veut faire une analogie avec Dieu qui crée. Donc, au commencement était la parole. Jean introduit le Seigneur Jésus par le terme « parole ». Puis on sait de qui il parle, parce qu'on a lu au verset 14, « Et la parole a été faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, Jean utilise le mot « parole » pour parler du Seigneur Jésus. C'est le seul évangéliste qui fait ça. Et puis, dans son évangile, il le fait seulement dans le prologue. Puis, quand on lit ses épîtres, à une reprise, il va aussi utiliser le terme « parole ». Puis, quand on lit l'Apocalypse, donc Jean a écrit l'Évangile, des épîtres et l'Apocalypse, aussi à une seule reprise, il va utiliser le terme « parole ». Maintenant, il y a un rapprochement entre Genèse 1 et Jean dans son expression du mot « parole ». Pourquoi il utilise le terme « parole » pour parler du Seigneur Jésus? Dans Genèse 1, c'est écrit, au chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Maintenant, comment est-ce que Dieu a créé les cieux et la terre? Verset 3, « Dieu dit. » Et à chaque jour, Dieu parle, Dieu dit, et il crée des choses ou il remodèle des choses dans sa création. Donc, Dieu a créé par sa parole. Le psalmiste, au psaume 33, verset 6, c'est écrit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Maintenant, c'est assez étonnant de voir que le psalmiste dit que ça a pris juste le souffle de la bouche de Dieu pour créer l'univers. C'est assez merveilleux. Et un univers qu'on a pas encore vu l'infiniment petit, puis un univers qu'on n'a pas vu encore l'infiniment grand. Dieu a parlé et a créé l'univers par le souffle de sa bouche. Donc, Dieu crée par sa parole, puis ça démontre sa puissance. Maintenant, le mot « parole », ce n'est pas Jean qui l'aurait inventé, mais les philosophes grecs utilisaient aussi le terme « logos » en grec. Le terme « logos » traduit le mot « parole », lorsqu'on lit l'original, puis qu'on lit « parole », dans l'original, on lit « logos ». Ben, il utilisait ce terme-là. Il y a un certain philosophe grec qui s'appelle Héraclite, qui, vers 600 ans avant Jésus-Christ, a utilisé le mot « parole » pour désigner la raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Donc, pour les Grecs, le mot « verbe », puis certaines traductions traduisent le logos par « verbe », je pense que c'est plus juste « parole », mais ils utilisent le mot « verbe » parce que « verbe », ça démontre de l'action. Hein? Mais les philosophes grecs utilisaient le mot « verbe » pour désigner un principe impersonnel qui donnait de l'ordre à l'univers. Ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Hein? Les gens disent l'univers, ben, elle s'auto-gère. Hein? Les gens ne voient pas en arrière de l'univers un Dieu créateur, c'est juste que l'univers est, puis elle fonctionne comme elle est. Les lois sont là pour faire fonctionner l'univers. La gravité dit que si tu sautes, tu vas tomber, hein? Tu vas être attiré. Mais pour les gens, c'est une loi impersonnelle qui gère l'univers. Mais les philosophes grecs, ils avaient la même pensée. Mais pour Jean, la parole, le Seigneur Jésus qui a créé toutes choses, c'est un principe supérieur qu'un principe impersonnel que les philosophes grecs avaient et que même nos gens ont aujourd'hui parmi notre société ou nos sociétés. Jean va dire que cette parole-là, elle a créé. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que pas seulement il a créé, mais il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, le Seigneur Jésus, Dieu a créé toute chose, mais pas seulement il l'a créé, mais il l'a laissé aller, puis ça marche, mais il soutient sa création. Donc, la parole, elle crée, mais la parole aussi, elle se révèle. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, on lit ceci, « Dieu dit, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit. » Le prophète Jérémie, quand il va commencer, il va écrire ceci, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Donc, Dieu parle à ses prophètes pour que les prophètes parlent à la part de Dieu. Donc, la parole, ça révèle des choses. On se révèle, on dit des choses par nos paroles. Puis Dieu aussi s'est révélé par sa parole. Puis s'est révélé particulièrement par la parole qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu nous révéler Dieu. Il est venu nous révéler le Père. On l'a lu au verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. » Donc, Jean utilise le mot « parole » parce que cette parole-là crée, mais Jean utilise aussi le mot « parole » parce que cette parole-là, elle nous révèle, elle nous fait connaître Dieu. Elle nous fait connaître le Père. Le Fils, c'est celui qui est venu révéler le Père. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, verset 2, va dire ceci. « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, au commencement était la parole, cette parole-là qui crée, cette parole-là qui se révèle ou qui révèle. C'est pourquoi Jean utilise ce mot-là pour parler du Seigneur Jésus. Maintenant, suivez-moi un petit peu, là. S'il y a un commencement, ça veut dire qu'il y a une notion de temps. Lorsqu'on dit que quelque chose a commencé, c'est toujours que quelque chose a commencé à un moment précis. Donc, l'acte de création, ça implique pas seulement que Dieu a créé tout à partir de rien, mais aussi il a créé le temps. Parce qu'il y a eu un commencement, il y a eu un jour, à un moment donné. On est, je sais pas combien là, de jours, peut-être 4000 ou 5000 ou 6000 ans après le jour 1, mais il y a eu un jour 1, lorsque Dieu a créé. Donc, Dieu a créé les choses matérielles, mais il a aussi créé le temps dans lequel nous vivons. Excusez, je vais revenir. Là. Si vous voulez, vous me suiviez, il faut que je me suive moi-même. Donc, l'acte de création implique que ce qui n'était pas est, et pour que ce soit, il y a eu un début, il y a eu un commencement. Donc, ici, la parole, elle était, si elle a créé cette parole-là, elle était avant le jour 1, avant la création. Donc, si elle était avant la création, elle n'a pas été elle-même créée, la parole. Donc, elle est hors du temps, et si elle est hors du temps, elle est éternelle. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. C'est un éternel aujourd'hui, c'est une éternité. Maintenant, Frédéric Godet va l'exprimer comme ceci, puis je vous le lis. « Quand tout ce qui a commencé, commençait, la parole était. » Elle seule ne commençait pas, elle était déjà là. Donc, quand Jean utilise le mot « commencement », puis il va dire après ça que cette parole-là au commencement a créé, hein, elle est au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle », bien, il est en train de dire que cette parole-là préexistait avant, qu'elle était de toute éternité. Puis d'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, au moins à 7 reprises, je vous l'avais fait remarquer, Jésus dit « Je suis ». Mais par cette expression-là, de cette déclaration-là, bien, il déclare qu'il est avant toute chose. Et d'ailleurs, il va dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Donc, dans cette première parole-là, au commencement était la parole, Jean affirme la préexistence du Seigneur Jésus, qu'il était avant toute chose. Ensuite, il poursuit, il va dire, « Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il va le répéter au verset 2. Hein? Elle était au commencement avec Dieu. Donc, qu'est-ce que Jean nous dit ici? Il nous dit que la parole était avec Dieu. Donc, pour être avec quelqu'un, on est quelqu'un d'autre. Mais pas seulement elle était avec Dieu, mais elle était Dieu. Ou littéralement même, on pourrait traduire, « Et Dieu était la parole. » Donc, Jean est en train de nous dire que la même personne, elle est plus qu'une et elle est une. Jean est en train de nous enseigner la Trinité. Puis quand on parle de la Trinité, il faut réaliser qu'on a nos mots limités pour parler d'un concept ou d'une vérité ou d'une doctrine qui est quand même assez grande. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais on a seulement ces mots-là pour exprimer ce concept-là. Donc, c'est ce que la Bible nous enseigne. Elle nous enseigne un Dieu trinitaire. Elle nous enseigne que la parole éternelle était avec Dieu. Donc, que cette parole était distincte. Et pourtant, cette parole-là était Dieu. Donc, elle était une. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire aux Juifs. Hein, « Moi et le Père, nous sommes un. » Puis quand il a dit ça, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu lapider. Pourquoi ils ont voulu lapider le Seigneur Jésus? Bien, ils lui auraient dit, « Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Les Juifs avaient compris ce que le Seigneur Jésus était en train de dire. Les Juifs comprenaient que le Seigneur Jésus se déclarait Dieu en disant, « Moi et le Père, nous sommes un. » Paul va dire de Jésus-Christ, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Et ça, c'est quand même assez étonnant de réaliser que lorsque le Seigneur Jésus marchait sur la terre, les hommes voyaient un simple homme. Et pourtant, c'était Dieu. John MacArthur, il va l'exprimer ainsi, il va nous dire, « Nous comprenons qu'il y a un seul Dieu, cependant il y a trois personnes. Cela ne peut s'expliquer que de la manière trinitaire. Être Dieu par nature et pourtant être une personne distincte, être avec Dieu. » Fin de la citation. Et vous savez, un des aspects intéressants de l'Évangile de Jean, c'est que Jean nous démontre que chacun des membres de la Trinité a contribué au salut que le Seigneur Jésus est venu accomplir sur la terre. Jean nous démontre que le salut a été initié par le Père, mais accompli par le Fils. Bon, dans les passages suivants, il le sous-entend lorsqu'il nous montre que le Père a envoyé le Fils comme rédempteur. Jean 6, 57, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. » Jean 8, 18, « Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Maintenant, pourquoi est-ce que le Père l'a envoyé? Jean 18, 11, le Seigneur Jésus va dire à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » Donc, c'est le Père qui initie le salut et qui envoie le Fils pour l'accomplir. Dans Jean 6, 37, 38, on lit ceci, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a enseigné. » Il y a deux choses très intéressantes et importantes de ce passage-là. C'est que non seulement le Père envoie le Fils comme rédempteur, mais il fait cadeau des élus à son Fils. Nous sommes, nous, les enfants de Dieu, les croyants, le cadeau du Père au Fils. Et dans le plan du Père, le Fils est venu accomplir la volonté du Père. Puis il va l'exprimer à plusieurs reprises dans l'Évangile. Le Seigneur Jésus va exprimer le fait qu'il est venu accomplir la volonté du Père. Puis pas seulement accomplir sa volonté, mais même dire ce que le Père lui a demandé de dire. Dans Jean 12, 49, on lit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Le Seigneur Jésus est venu accomplir parfaitement la volonté de son Père lorsqu'il est venu sur la terre, pas seulement lorsqu'il est mort sur la croix, qui est l'acte principal pourquoi il est venu, mais pendant toute sa vie. Il a vécu une vie de parfaite obéissance à son Père, sachant pourquoi il est venu puis qu'est-ce qui était venu sur la terre. Puis remarquez qu'il n'est pas venu contraint, d'une manière contrainte, mais de son plein gré. Dans Jean 10, au verset 17 et 18, il va dire, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. » Puis si on peut penser que même les hommes n'ont pas enlevé la vie du Seigneur Jésus, mais même le Père ne lui a pas enlevé la vie. Hein. « Mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, c'est un thème dans les Écritures que Dieu a envoyé son Fils comme rédempteur selon son plan divin. Je vous cite juste un verset qui n'est pas dans l'Évangile de Jean, parce que je vous disais tout à l'heure que Jean, c'est un théologien, puis on peut tellement trouver de passages qui appuient ses enseignements, comme je viens de le démontrer, mais il y a d'autres passages aussi des Écritures qui soutiennent ça. Pierre, dans la toute première prédication de l'Église, en parlant du Seigneur Jésus, va dire à la foule, « Cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu, c'est-à-dire la volonté du Père, et selon la préscience de Dieu, ce qu'il avait prévu de toute éternité, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » le Fils qui est venu accomplir ce que Dieu, ce que le Père avait de toute éternité établi. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les hommes sont des complices involontaires pour que la volonté de Dieu, en ce qui concerne la mort du Seigneur Jésus, s'accomplisse. Ils sont des complices involontaires. Ils sont pleinement dans leur capacité de décider ce qu'ils veulent faire. Et dans ce qu'ils décident de faire, ils accomplissent ce que Dieu avait prévu dans son plan divin. Donc, c'est le Père qui initie le plan du salut et c'est le Fils qui l'accomplit. C'est pourquoi on prie, lorsqu'on prie, on prie le Père pour le remercier du don de son Fils, mais on prie le Fils pour le remercier du don de sa vie, de sa mort sur la croix. En ce qui concerne le Saint-Esprit, bien, Jean nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes. Jean 16, 8, c'est écrit, « Et quand il, le Saint-Esprit, sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur des pécheurs de la nécessité du sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix, que ce sacrifice-là que le Père lui a demandé de venir accomplir pour nous. Et vous savez, quand on annonce l'Évangile, on le fait dans la conviction que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de la nécessité d'embrasser l'Évangile pour leur salut personnel. Il faut le faire dans cet esprit-là, dans ce sentiment-là que on fait ce que le Seigneur nous demande, d'annoncer ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix avec la pleine confiance que Dieu, par son esprit, saura toucher les cœurs. Puis ça enlève un certain fardeau sous nos épaules, hein, parce que souvent on va dire, bien là, on aimerait ça que ça marche, mais là, on se met un fardeau. Je pense qu'on n'a pas besoin de se mettre de fardeau, on a juste besoin d'être des gens qui obéissent à ce que Dieu nous demande de faire, hein, aller, faites de toutes les nations des disciples. Il nous donne le commandement, mais il ne nous laisse pas avec tous les résultats. Il nous donne l'assurance que c'est le Saint-Esprit qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On voit aussi dans l'Évangile que le Saint-Esprit a aidé les disciples à écrire justement la parole de Dieu. Puis c'est une des certitudes qu'on a que ce qu'on lit est vraiment de Dieu parce que c'est inspiré du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus va dire en Jean 14, 26 à ses 12 ou aux 11, parce que là, notre ami Judas n'était plus là. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Et bien qu'ils ont été avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans, c'est quand même le Saint-Esprit qui leur a rappelé qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur avait dit, puis leur a inspiré la parole qu'on a entre nos mains. Puis lorsqu'on la lit, puis qu'on l'étudie, puis qu'on la médite, on a confiance que c'est Dieu qui nous parle. Parce que cette parole-là, elle est inspirée. Dans le même chapitre, le Seigneur va dire que le Saint-Esprit habite le croyant. Le Seigneur va dire, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le vrai croyant, le Saint-Esprit, vient habiter en lui. Et pourquoi il vient habiter en lui? C'est pour qu'on vive une vie d'obéissance. Puis, n'est-ce pas ce qu'est une vie de disciple? Hein? Si on veut regarder pratiquement, pratico-pratique, une vie de disciple, ce n'est pas une vie d'obéissance. Le Seigneur va dire dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Maintenant, est-ce que le Seigneur Jésus a toujours accompli la volonté de son Père? Est-ce qu'il n'y avait pas le choix? N'avait-il pas le choix de décider ce qu'il allait faire? Est-ce que j'ai bien dit ça? OK. Et pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il toujours accompli la volonté de son Père? Est-ce qu'il n'y avait pas le choix? Avant d'aller à la croix, il va dire, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que Dieu m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Donc, le Seigneur Jésus accomplit ces choses-là parce qu'il aime le Père. Et pour un disciple, c'est la même chose. Le Seigneur va dire, « Si vous m'aimez, garder mes commandements. Ça, ça fait une grande différence. Hein? On peut dire, je dois garder les commandements pour être aimé de Dieu, puis avoir la faveur de Dieu, mais ce n'est pas ce que la parole enseigne. On obéit aux commandements parce qu'on aime Dieu. Puis Jean même va aller plus loin. On aime Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés en premier. Donc, la vie disciple, c'est aimer et obéir, suivre le Seigneur Jésus comme notre maître. Maintenant, en ce qui concerne la troisième vérité, grande vérité, l'auto-existence de la parole, elle est affirmée au verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Maintenant, c'est l'évidence même que celui qui a créé est hors de sa création. Donc, il est auto-existant. Il n'y a pas besoin d'avoir été créé pour exister. Nous, on a eu besoin de naître pour exister, mais pas le Seigneur Jésus. D'une manière positive, Jean affirme que toutes choses ont été faites par elle, par la parole, mais d'une manière négative, il dit « rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ». J'aime bien comme Ed Darby le traduit. Il va dire « et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait ». Tout ce que l'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. L'infiniment petit, comme je disais tout à l'heure, l'infiniment grand. Le bout de l'univers qu'on ne sait pas où il est, moi, je suis convaincu qu'il n'y en a pas de bout. Mais je ne peux pas le prouver. Mais l'univers est tellement grand qu'on ne sait même pas où est-ce qu'il finit. S'il finit. Donc, puis même l'infiniment petit, hein, je veux dire, la chimie nous dit qu'il y a des atomes qui se tournent autour d'eux-mêmes, mais personne n'en a vu. C'est une manière de dire, d'être capable d'expliquer comment les choses sont, même l'infiniment petit. Tout a été fait par lui. Aux Colossiens, Paul va dire la même chose, car en lui, en parlant du Fils, a été créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Aux Corinthiens, il va dire, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. J'ai cité Hébreux tout à l'heure, au verset 2, ça nous dit que Dieu nous a parlé par le Fils, puis dans le même verset, ça nous a enseigné que par lui a aussi été créé l'univers. Donc, Genèse 1 nous dit que Dieu a créé l'univers par sa parole, puis les passages qu'on vient de lire nous enseignent que le Seigneur Jésus a créé l'univers, qu'il est lui-même la parole qui a créé toute chose, puis que sans elle, rien ne fut fait qui a été fait. Donc, Dieu est le créateur de l'univers, mais l'agent de création, c'est le Fils, par qui toutes choses ont été créées. Jean encore, dans l'Apocalypse, va l'affirmer par la bouche des 24 vieillards dans Apocalypse 4, qui adore celui qui vit au siècle des siècles en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, dans les trois premiers versets, ce que Jean veut qu'on sache à propos du Seigneur Jésus, c'est que le Fils de Dieu, il est avant la création éternelle, hors de la création, puisqu'il a créé toute chose, et le Créateur indépendant de sa création. Puis le Fils de Dieu, il est un Dieu trinitaire. Et que ce Fils-là est venu sur la terre accomplir la volonté du Père pour le salut de ceux qu'il a choisis dès la fondation du monde, que le Fils nous a quittés, mais il nous a laissé qui? Son Saint-Esprit qui habite chaque croyant. C'est ce qu'on voit dans les trois premiers versets. On va continuer avec les deux autres. Jean, maintenant, après nous avoir présenté la parole, il nous enseigne comment cette parole-là s'est manifestée. Donc, l'expression de la parole. Et dans ces versets-là, on va voir, puis c'est fascinant, que Jean, à nouveau, utilise la création comme une leçon d'objet. Il fait un parallèle entre la création physique et puis, le Seigneur Jésus qui aussi donne la vie. Parce que lorsque Dieu a créé, il a donné la vie, puis il va nous dire, Seigneur Jésus aussi donne la vie. Dans un premier temps, Genèse 1, il va nous parler de la vie terrestre. Puis Jean va prendre ce parallèle-là pour nous parler de la vie spirituelle. le parallèle, il est vraiment évident, puis il est vraiment beau. Donc, si on résume les versets 4 et 5, ce que Jean nous dit, c'est que la parole était la vie. La vie était la lumière des hommes, de l'humanité. Et cette lumière-là, lui, dans les ténèbres. Maintenant, Genèse, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle des trois mêmes thèmes. Au commencement, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Lorsque Dieu crée, il crée, entre autres, la vie. Il nous a créés, il a créé des plantes, des animaux. Il a créé la vie physique. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, Dieu crée, mais cependant, c'est ténébreux. Et au verset 3, on a « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Maintenant, ma compréhension de la création, c'est que Dieu crée comme une masse de choses sans lumière. Et à partir de ça, va le modeler pour que la terre devienne habitable. Mais pas seulement le modeler, mais il va le modeler aussi en ajouter des choses. Maintenant, voici comment Mercatus l'exprime, puis je pense que j'aime comment il le dit. Il dit ceci, « Dieu va s'empresser en 6 jours de décorer sa création initiale. » C'est un beau mot, hein? « De décorer sa création initiale. » Fin de la citation. Donc, la première décoration que Dieu fait, c'est la lumière. Puis, il y en a que ça fatigue, hein, parce qu'il crée le soleil au jour 3, mais il crée la lumière au jour 1. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu de créer la lumière avant de créer le soleil. Et d'ailleurs, dans Apocalypse, on lit que dans la Nouvelle Terre, tout ça, il n'y aura pas de soleil. Pourquoi? Parce que ça va être le Seigneur Jésus qui éclaire. Donc, Dieu, la première chose qu'il fait pour modeler cette création-là qu'il fait, c'est qu'il crée la lumière. Maintenant, pourquoi il crée en premier la lumière? Pour la simple raison que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Ça prend la lumière pour avoir la vie. Et dans sa création, la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle dissipe les ténèbres, hein? Parce qu'au verset 2, ça nous est dit qu'il y avait les ténèbres. Et Dieu crée la lumière, et la lumière fut, et la lumière a dissipé les ténèbres. Et elle a dû dissiper les ténèbres pour que la lumière soutienne la vie, parce que la lumière, elle est nécessaire à la vie. Donc, dans Genèse, on a Dieu crée la vie, il y a la création qu'il crée avec les ténèbres et il crée la lumière ensuite. Dans Jean, on a l'inverse. Jean crée la vie et cette vie-là, Seigneur Jésus est la vie, excusez, et cette vie-là, elle est la lumière et cette lumière-là dissipe les ténèbres. Donc, dans Genèse, on a les ténèbres avant la lumière, mais Jean ici nous dit que le Seigneur Jésus qui donne la vie, c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. Donc, la parole est la vie. Hein, on a lu « En elle était la vie », puis elle n'a pas besoin de la création de la lumière pour soutenir cette vie-là, cette vie spirituelle-là, parce qu'elle est elle-même vie, elle est lumière. Le Seigneur Jésus qui est le créateur de la vie, qui est le créateur de toute chose physique, donne la vie spirituelle. Et c'est important qu'on comprenne ça parce qu'on comprend l'importance que Jean met dans ce qu'il écrit à ce qui concerne la parole. Il veut nous faire réaliser que ce créateur-là qui a créé toute chose, c'est lui, c'est seulement lui qui peut nous donner la vie spirituelle, comme lui-même a donné la vie physique. Donc, chaque être humain, chaque homme, chaque femme doivent leur vie physique au Fils créateur. Et chaque homme et chaque femme conservent la vie par le Fils aussi. C'est ce que Paul dit aux Athéniens. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il nous préserve la vie. Cependant, dans Jean, ici, dans son prologue, il ne nous parle pas de la vie biologique, hein, mais il nous parle de la vie spirituelle. Donc, le mot grec pour la vie biologique, c'est « bios », ou ce qu'on a « biologie ». Mais ici, Jean nous parle de « zoé », la vie spirituelle, la vie éternelle. Et comme le Seigneur donne la vie et maintient la vie physique, il donne la vie spirituelle et la maintient. Et je précise qu'il la maintient parce qu'on ne doit pas limiter la vie spirituelle à juste le fait d'avoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus va dire dans Jean 10:10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie spirituelle, mais qu'elle l'ait en abondance. » Et cette abondance-là, ça nous parle de notre vie sur terre, parce que lorsqu'on va être au ciel, ça sera de l'abondance de toute manière. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas seulement venu nous faire naître de nouveau pour qu'on ait la vie éternelle, mais il est venu aussi nous donner la vraie vie comme elle doit être, et elle était prévue sur la terre. Il y a les notes d'une Bible à commentaire que j'ai, ESV, qui dit ceci. Jésus appelle ses disciples non pas à une existence morne, sans vie, misérable, mais à une vie riche, pleine, joyeuse, débordante d'activités significatives, sous la faveur et la bénédiction personnelle de Dieu et d'une communion continue avec son peuple. On vit une vie sous le regard de Dieu, pas seulement sous le regard de Dieu, mais sous sa direction. C'est la vie. C'est la seule manière d'avoir une vie pleine sur la terre. Donc, Jean va nous dire que la parole était la lumière des hommes. Donc, il identifie Jésus comme la lumière qui donne la vie. Puis, il ne le fait pas seulement ici, il va le faire dans Jean 8:12. « Je suis la lumière du monde », le Seigneur va dire. « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 9:5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jean 12:46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière-là? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Bien, il dissipe les ténèbres. Quelles ténèbres est-ce qu'il dissipe? Ce n'est pas des ténèbres physiques comme dans Genèse, mais c'est des ténèbres spirituelles. C'est ce que le monde vit lorsqu'il vit une vie sans Dieu. Les ténèbres, c'est un monde où est-ce que les hommes vivent et sont portés au mal. L'humanité, c'est caractérisé par la noirceur, la haine, le mal. Puis pas seulement le monde est caractérisé par ces choses-là, mais le monde s'oppose à la lumière. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire à Nicodème. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont quoi? Préféré les ténèbres. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi les gens ne répondent pas à l'Évangile instantanément comme on espérait qu'ils font, puis qu'ils ne le comprennent pas comme on le comprend? C'est parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Pourquoi ils préfèrent les ténèbres? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Puis lorsque le Seigneur Jésus vient, il leur démontre ça, puis ça ne fait pas leur affaire, ils ne veulent pas. Ils préfèrent vivre dans les ténèbres. Encore à Nicodème, le Seigneur Jésus va dire, « Car quiconque fait le mal haït la lumière. » Maintenant, une des choses qu'il ne faut pas être surpris, c'est que plus la société va s'éloigner des valeurs judéo-chrétiennes, plus elle va haïr ces valeurs judéo-chrétiennes-là. C'est sûr. Et on le voit. J'ai lu il y a quelques jours que Kamala Harris, qui est vice-présidente des États-Unis, la première fois qu'une vice-présidente des États-Unis va visiter un centre d'avortement. Pourquoi? Parce que les démocrates veulent ouvrir. Ils ne sont pas contents qu'il y ait eu des lois. Puis qu'il y a eu des jugements, pas des lois, excusez, qu'il y a eu des jugements aux États-Unis qui commencent à restreindre l'avortement. Puis ils vont faire campagne là-dessus. C'est aimer la noirceur, c'est aimer les ténèbres. C'est ce que l'on voit, c'est où ce que la société va. Donc, une société sans la saveur, sans le sel du christianisme, s'enfonce dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ils aiment ça, puis c'est ce qu'ils veulent. Je suis en train de sauter un petit bout. Soyez patients. Donc, qu'est-ce que la lumière fait? Il y a deux choses que la lumière fait. Premièrement, je voulais mentionner, c'est nécessaire pour qu'il y ait la vie. Puis seul le Seigneur, qui est la lumière, donne la vraie vie et la vie spirituelle et donne la vie à venir. Mais la lumière aussi, elle dissipe les ténèbres pour qu'on voit les choses dans leur réalité. Si on met ici la pièce dans sa noirceur, vous ne voyez rien, vous ne discernez rien. Vous êtes capable de discerner ce qu'il y a dans la pièce, qui sont là, où les meubles sont, qu'est-ce qu'elle fait cette pièce-là, seulement lorsqu'on ouvre les lumières. Sinon, on n'est pas capable. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Bien, c'est qu'il expose la réalité d'un monde déchu. Pourquoi il expose la réalité d'un monde déchu? Pour qu'ils comprennent puis qu'ils aient la vie. Le Seigneur va dire aux Juifs qui ne voulaient pas croire, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Ne sait pas où il va. Donc, on a aussi, le Seigneur va dire qu'on est la lumière du monde. On a la même responsabilité d'exposer les choses telles qu'elles sont pour que les gens voient ce qu'ils sont. Puis, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va exposer les choses comme le Seigneur Jésus l'expose pour que les gens voient? Bien, certains vont, par l'œuvre du Saint-Esprit, comprendre puis embrasser l'Évangile. D'autres, ils vont le combattre. Ne soyons pas surpris qu'il va avoir un combat spirituel de plus en plus dans nos sociétés. Parce que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ce que Jean nous dit ici à la fin du verset. Maintenant, ce petit point-là, ne l'ont point reçu, c'est intéressant parce que certaines autres versions vont traduire qu'ils ne l'ont point comprise ou point saisie. Quelqu'un m'a introduit un site Internet qui est vraiment merveilleux. Vous allez prendre un verset, puis il va étaler à peu près une quinzaine de versions francophones. Puis c'est intéressant de voir comment les gens traduisent certains passages. Puis dans une de ces traductions francophones-là, c'était la fin du verset est traduit ainsi, « Et les ténèbres ne l'ont point arrêté ». Il y a deux versions anglophones que j'ai consultées qui traduisent ainsi, puis je traduis de l'anglophone au francophone, là. Et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Donc, on pourrait traduire ici, et les ténèbres ne l'ont point reçu par, et les ténèbres n'ont pas été vaincus. Et certains commentateurs vont nous faire remarquer ça, puis moi, j'embrasse cette version-là, pour la simple et bonne raison que l'analogie de Jean avec la création fait en sorte qu'il me semble que c'est la meilleure manière de comprendre la fin de ce verset 5-là. Comme Dieu a créé la lumière pour dissiper les ténèbres, puis les ténèbres ont été dissipées hein, lorsqu'il a créé la lumière, bien, c'est la même chose. Là, lorsque le Seigneur Jésus vient, les ténèbres vont être dissipées par sa présence. Et cette lumière-là ne sera pas vaincue. Et c'est comme ça que je l'explique aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on rentre dans une pièce puis qu'on veut l'éclairer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on ouvre la lumière, hein? On lève le commutateur ou on paye sur le bouton, puis là, la lumière dissipe les ténèbres. Mais vous ne pouvez pas allumer les ténèbres pour dissiper la lumière. Ça ne se dissipe pas, la lumière. Comment est-ce qu'on fait pour retomber dans les ténèbres? On retire la lumière, on ferme la lumière. La lumière vainc toujours les ténèbres. Mais les ténèbres ne vainc, le mot vainc, là, jamais la lumière. Puis je pense que Jean ici est en train de nous dire, par ce passage-là, c'est qu'en définitive, la lumière ne sera jamais vaincue. Même si elle paraît être vaincue, même si on ne voit pas les évidences autant qu'on voudrait les voir, puis même si ça s'en va de pire en pire, la lumière ne sera jamais vaincue. C'est le Seigneur Jésus qui va ultimement triompher. Bon, Maintenant, ce que j'aimerais faire en très courte conclusion, c'est de vous lancer une invitation. Hein, le Seigneur Jésus va dire aux Juifs dans Jean 5, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Est-ce que ce matin, il y en a ici parmi nous qui ne veulent pas venir au Seigneur Jésus, à cette lumière-là, à celui qui donne la vie, justement pour avoir la vie? Je pense que Jean a écrit son évangile justement pour que les hommes voient dans le Seigneur Jésus celui qui donne la vie, celui qui est la vie, justement pour qu'on croit en lui. Puis j'espère ce matin qu'il n'y a pas personne qui n'a pas cette vie spirituelle-là, n'a pas compris que ce que le Seigneur Jésus est venu faire, ce que j'ai essayé de démontrer aussi dans ces passages-là, que c'est le Seigneur Jésus qui donne la vie spirituelle. Puis pour chacun d'entre nous qui se réclamons de lui, réalisons que si le Seigneur Jésus nous a donné la vie spirituelle, c'est impossible de vivre maintenant comme ressuscité sans que le Seigneur Jésus soit aussi celui qui nous guide, notre lumière, puis que son esprit agisse en nous, qu'on s'appuie sur lui. Je pense que c'est impossible. La vie chrétienne est une vie impossible sans le Seigneur Jésus qui nous habite par son esprit. On va prier. Seigneur, merci pour ces quelques versets, pour ces grandes vérités. J'ose espérer qu'on a pu apprendre des choses importantes pour chacun d'entre nous, que ce n'était pas trop difficile, que j'ai été capable de simplifier des choses qui peuvent paraître quelquefois difficiles, mais tellement importantes. Et vraiment, on a une appréciation toute nouvelle du Seigneur Jésus, lui qui est de toute éternité, créateur, qui sait, comme on l'a rappelé ce matin, puis comme on a lu dans les derniers versets du prologue, qui est venu parmi nous, qui a revêtu une chair comme la nôtre, mais tout particulièrement qui est venu pour donner la vie spirituelle, la nouvelle naissance, et qu'il a accompli ça par son sacrifice à la croix. On veut vraiment exalter le Seigneur Jésus, on veut vraiment avoir une pleine appréciation de ce qu'il est, pour qu'on marche aussi d'une manière qui l'honore. Amen.